Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes aujourd'hui le 13e dimanche après la Pentecôte. Alors nous allons essayer de comprendre ensemble ce que notre Seigneur Jésus-Christ veut nous enseigner par l'Évangile. La partie de l'Évangile qui a été choisie par la Sainte Église pour cette journée. On la trouve au chapitre 17 de Saint-Luc. Notre Seigneur Jésus-Christ va guérir, cette fois-ci d'un seul coup, 10 lépreux. Pas un ou deux malades comme d'habitude, mais 10 d'un coup. En ce temps-là, Jésus, se rendant à Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent au-devant de lui. Ils se tinrent à distance et s'écrièrent : « Jésus, notre Maître, ayez pitié de nous. » Première question qu'il faut nous poser, c'est de comprendre la signification de ce chiffre, 10. Pourquoi 10 lépreux ? Vous savez que la lèpre, je vous l'ai déjà expliqué souvent dans mes commentaires des évangiles des dimanches, la lèpre a toujours représenté, chez les pères de l'Église, la maladie spirituelle, à savoir le péché. De même que la maladie de la lèpre est une maladie insidieuse, mortelle, qui à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas soignable, de la même façon, le péché mortel s'insinue dans notre âme sans qu'on puisse le voir tout à fait au début au moins, et une fois qu'il est dans l'âme, il est très difficile à faire partir. Donc, la lèpre représente le péché mortel. Mais de même que notre Seigneur Jésus-Christ a pouvoir sur la lèpre physique, à savoir la maladie de la lèpre, il faut bien comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ a aussi pouvoir sur la maladie spirituelle, la lèpre spirituelle. Et qu'est-ce qui est plus grand ? Soigner, guérir miraculeusement 10 lépreux, atteints dans leur corps, ou soigner et guérir miraculeusement aussi des millions et des millions d'êtres qui s'approchent de notre Seigneur Jésus-Christ au tribunal de la pénitence, au confessionnal, et qui sont guéris dans leur lèpre spirituelle. On parle beaucoup des guérisons physiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces guérisons physiques, il y a des milliers de guérisons spirituelles. Et les guérisons spirituelles sont bien plus importantes que les guérisons physiques, parce que l'âme est plus importante que le corps, plus importante que le corps. Alors on est très frappé par les guérisons physiques de notre Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ provoque chez ces malades qui venaient à lui. Et on oublie un peu trop toutes ces guérisons extraordinaires des âmes qui ne se voient pas. Donc réalisons qu'à chaque fois qu'un pécheur qui a le cœur empli de péché mortel, vient, s'approche de notre Seigneur Jésus-Christ, plus exactement s'approche du ministre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le prêtre. Quand il s'agenouille au pied du prêtre, sur au confessionnal, sur la genouilloire du confessionnal, et qui dit avec humilité : Mon Père, pardonnez-moi parce que j'ai péché, qu'il accuse ses péchés, qu'il les regrette du fond du cœur. Eh bien, lorsque le prêtre donne l'absolution, allez en paix, vos péchés sont pardonnés, je vous pardonne vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous assistons à quelque chose de bien plus grand encore que les miracles physiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Les miracles plutôt de notre Seigneur Jésus-Christ sur les corps physiques des gens qui le voyaient en Palestine il y a 2000 ans. Alors pourquoi 10 lépreux ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a 10 commandements. La lèpre, je vous l'ai dit, représente le mal du péché. Et comme on peut offenser le bon Dieu, malheureusement, dans chacun des commandements, eh bien, il y a 10 lépreux, parce que ces 10 lépreux représentent l'universalité des péchés. Il faut bien montrer que, puisque les 10 lépreux tous ensemble peuvent s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, quels que soient les péchés que j'ai commis, quel que soit le commandement de Dieu que j'ai violé par mon péché grave, si j'ai vraiment la contrition de mon péché, le bon Dieu me pardonnera, comme il a guéri ces 10 lépreux. Donc chaque lépreux représente un commandement de Dieu. Bien sûr, attention, il ne faut pas interpréter ça de travers et se dire, bon, bien dans ce cas-là, c'est que tous les commandements sont égaux. Non, les commandements ne sont pas égaux. L'égalité n'existe pas dans la création de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que les commandements sont différents les uns des autres. Sur la première table de la loi qu'a reçue Moïse des mains de Dieu, il y avait les trois premiers commandements, le premier, le deuxième et le troisième. Et ces commandements avaient directement Dieu pour objet. Commandements pour nous aider à adorer notre Seigneur Jésus-Christ dans sa divinité. Sur la deuxième table de la loi reçue par Moïse des mains de Dieu, il y avait les autres commandements de 4 à 10. Et ces commandements ont pour objet de nous aider à nous comporter correctement sous le regard de Dieu avec le prochain. Comme il est bien plus grave d'attaquer Dieu directement que d'attaquer Dieu dans son prochain, dans notre prochain, dans nos prochains, il est évident que les péchés donc contre les trois premiers commandements sont bien plus graves que les péchés contre les quatrièmes au dixième commandement. Les péchés contre la première table de la loi sont plus graves que les péchés contre la deuxième table de la loi. Et on a beaucoup de mal à comprendre ces choses-là, parce que ce sont des choses qui nous dépassent un petit peu. À cause de notre manque de foi, on a beaucoup de mal, par exemple, à comprendre que le manquer à la messe ce dimanche, qui s'oppose au commandement de la première table de la loi, eh bien, manquer à la messe du dimanche, c'est bien plus grave en soi que de tuer quelqu'un qui s'oppose à un des commandements de la deuxième table de la loi. Donc, les lépreux sont à des stades de maladies différents. Celui qui vient à notre Seigneur Jésus-Christ et qui a offensé notre Seigneur Jésus-Christ dans le premier, deuxième ou troisième commandement, et un lépreux dont la lèpre est beaucoup plus profondément ancrée dans son corps, que dans son âme plutôt, que celui qui a offensé Dieu par une offense contre le quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième commandement. Mais pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ a pouvoir sur tous les péchés, y compris les plus graves, le péché d'infidélité à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ, les péchés d'idolâtrie, les péchés d'avortement, les péchés contre nature, qui sont légions aujourd'hui, tous ces péchés, le bon Dieu peut les pardonner à condition qu'on vienne à lui et qu'on regrette ces péchés. Et là, on voit dans l'évangile d'aujourd'hui, donc chapitre 17 du chapitre de Saint-Luc, on voit une action un peu bizarre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut essayer de la comprendre. Donc, les 10 lépreux viennent à lui, viennent à notre Seigneur. Jésus, notre Maître, ayez pitié de nous. Et dès qu'il les eut aperçus, notre Seigneur Jésus-Christ ne les guérit pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Allez, leur dit-il, montrez-vous aux prêtres. Et comme ils y allaient, ils furent guéris. Donc, notre Seigneur agit comme s'il ne voulait pas donner l'impression que c'était lui-même qui guérissait les péchés, mais qu'il fallait obtenir le pardon des péchés par l'intermédiaire du sacerdoce. Et pourtant, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, les prêtres dont il s'agit sont en fait les prêtres de l'Ancien Testament qui n'ont pas le pouvoir de pardonner les péchés, donc ils n'ont pas le pouvoir de guérir les âmes. Alors pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ envoie plutôt ces lépreux vers le sacerdoce pour bien montrer la force de ce sacerdoce qu'il va bientôt instituer? Notre Seigneur Jésus-Christ va instituer le sacerdoce du Nouveau Testament le soir du Jeudi Saint. Et il va donner à ces nouveaux prêtres, ces prêtres du Nouveau Testament, le pouvoir de pardonner les péchés. Et ceci est indiqué par cette phrase de l'Évangile: allez, montrez-vous aux prêtres, et comme ils y allaient, ils furent guéris. À l'époque, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ marchait sur les chemins de Palestine, eh bien, on pouvait le voir directement. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ, hélas, ne marche plus directement, physiquement, visiblement, sur nos routes, dans notre pauvre royaume de France. Mais notre Seigneur Jésus-Christ reste parmi nous par le sacerdoce. Et comme il a donné aux prêtres du Nouveau Testament, le pouvoir de pardonner les péchés, lorsque les lépreux spirituels, ceux qui sont malades dans leur âme, viennent à eux, viennent aux prêtres, ils sont guéris. Pourtant, cette lèpre spirituelle fait des ravages, des dégâts épouvantables dans nos âmes. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. On craint beaucoup la lèpre physique, mais on ne comprend pas très bien le danger de la lèpre spirituelle. Rappelez-vous cette histoire qu'on raconte à propos de Saint-Louis qui discutait, qui connut, tout le monde connaît cette histoire, mais je la répète pour ceux qui l'ont un petit peu oublié peut-être. Saint-Louis qui parlait avec son sénéchal, Joinville, et qui lui expliquait ce qu'était le péché mortel. Alors pour lui faire comprendre, il lui pose la question suivante: si vous aviez le choix, attraper la lèpre ou commettre un péché grave, qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous choisissez? Et Joinville, qui avait les pieds sur la terre, un peu trop d'ailleurs, va dire: oh, sire, moi je prends le péché mortel, parce qu'on peut aller se confesser, l'éliminer, surtout pas la lèpre, parce que la lèpre, une fois qu'on l'a, on ne peut plus s'en débarrasser. Et Joinville, et Saint-Louis lui a expliqué: non, vous avez tort, monsieur de Joinville, vous avez tort, parce que la lèpre atteint le corps, alors que le péché mortel atteint l'âme. Saint-Louis n'avait pas oublié les leçons qu'il avait reçues de sa mère, Blanche de Castille, qui lui disait quand il était enfant: « J'ai préféré, beau fils, vous savoir mort à mes pieds que de savoir que vous avez commis un seul péché mortel. » Alors on peut donc expliquer cette phrase « Montrez-vous au prêtre » en développant un petit peu le rôle du prêtre, justement, par rapport à celui qui vient à lui atteindre la lèpre spirituelle du péché mortel. Le péché mortel peut être ôté par le prêtre. Le prêtre a pouvoir sur ses péchés, sur cette lèpre spirituelle. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit à Saint-Pierre: tout ce que vous lirez ici-bas sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délirez ici-bas sur la terre sera délié au ciel. Alors pourquoi allez-vous montrer au prêtre? Parce que le prêtre de l'Ancien Testament était supposé officialiser la guérison du lépreux. Parce qu'un lépreux était atteint de la lèpre, il ne pouvait plus accéder aux villes. Il était obligé de vivre comme un sauvage, littéralement, loin des villes. Il était obligé de porter autour de son cou une petite cloche pour avertir les gens qui passaient près de lui, pour éviter la contagion, qu'ils évitent la contagion. Eh bien, le rôle du prêtre de l'Ancien Testament, c'était de vérifier quand il y avait une guérison, et il fallait vérifier que cette personne était véritablement guérie. À ce moment-là, elle était réintégrée dans la société civile. Bien, c'est la même chose avec le prêtre du Nouveau Testament. Le prêtre du Nouveau Testament, qui est un autre Christ, qui agit dans la personne du Christ, a pour rôle de vérifier la guérison, de vérifier que la guérison est possible plus exactement. Donc qu'est-ce que ça veut dire « allez-vous montrer au prêtre » ? Allez-vous montrer au prêtre pour que ce prêtre puisse vérifier que vous portez dans votre âme les conditions nécessaires à votre guérison. Le prêtre est prêt à vous pardonner. Il a le pouvoir de Dieu de pardonner vos péchés et d'éliminer tous les péchés. Encore faut-il que vous apportiez avec vous, dans votre sac à dos littéralement, les choses qui sont nécessaires pour que ce prêtre puisse vous absoudre. Eh bien, pour que le prêtre puisse absoudre, puisse vous absoudre, il faut trois choses. Rappelons-nous notre catéchisme. Il faut la contrition, l'accusation et la réparation. Montrez-vous au prêtre, c'est-à-dire montrez-vous au prêtre pour que le prêtre, avant de vous pardonner, en vous donnant la sainte absolution, puisse bien vérifier qu'il y a en vous ces trois choses. La contrition, c'est-à-dire le regret de ses péchés, la douleur des péchés commis, avec un ferme propos de ne pas recommencer, surtout en évitant les occasions prochaines volontaires de péchés graves. Il doit vérifier aussi que vous avez l'accusation, que vous avez accusé vos péchés avec force, avec netteté, avec honnêteté, en expliquant quand c'est nécessaire le nombre, les espèces, les circonstances des péchés, pour que le prêtre comprenne bien ce que vous avez fait. Et il faut qu'il puisse vérifier aussi que vous avez en vous un grand regret de vos péchés, avec une volonté claire de réparer ces péchés, ce qu'on appelle la réparation. Pas simplement d'accepter la petite pénitence donnée par le prêtre à la fin de votre confession, avant de vous donner l'absolution. mais de réparer les conséquences des péchés, surtout pour les péchés contre la justice. La justice, c'est quoi? C'est une vertu cardinale par laquelle nous rendons à chacun ce qui lui est dû. Puisque nous avons offensé Dieu par le péché grave, eh bien nous avons un devoir de remercier le bon Dieu. Nous avons un devoir de changer de vie puisqu'il nous a pardonné. Donc le prêtre a pour rôle au confessionnal de vérifier que vous avez la contrition, l'accusation et la réparation. S'il voit en vous ces trois choses, à ce moment-là, il peut, au nom du bon Dieu, vous pardonner. Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez en paix, votre foi vous a sauvé. Et là, se passe quelque chose de vraiment très étonnant. Il n'y avait rien de pire à l'époque, au niveau physique, au niveau corporel, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait rien de pire que d'avoir la lèpre. Les 10, en allant voir les prêtres, furent guéris. Mais un seul d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint, glorifiant Dieu à pleine voix. Et il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus, lui rendant grâce. Et c'était un Samaritain. Alors Jésus, prenant la parole, dit, « Est-ce que les 10 autres n'ont pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'en est trouvé aucun pour revenir et rendre gloire à Dieu, sinon cet étranger. » Là, notre Seigneur Jésus-Christ explique quelque chose qui est très important, la reconnaissance. Remercier le bon Dieu pour les grâces données. Je donne toujours comme exemple une maman qui donne à son enfant un beau cadeau. Si l'enfant ne sait pas remercier, le cadeau est repris des mains de l'enfant. Il n'est pas digne de le recevoir. De la même façon, le plus beau cadeau que le bon Dieu puisse nous faire, littéralement, dans ces cas-là, dans cette occasion-là dont l'Évangile parle aujourd'hui, c'est de nous pardonner nos péchés. Ne soyons pas comme ces Israélites de l'époque qui ne sont même pas capables de revenir voir notre Seigneur Jésus-Christ pour le remercier. Ils étaient au banc de la société, leur corps était estropié dans la pire des maladies de l'époque et ils ne reviennent même pas voir notre Seigneur. On peut se dire, mais c'est pas possible, comment quelqu'un qui est guéri d'une telle maladie, peut-il ne pas revenir voir son bienfaiteur et le remercier? C'est pour expliquer ce que nous faisons bien souvent, mes bien chers frères. Nous aussi, nous sommes un peu comme ces malades qui sont guéris par notre Seigneur Jésus-Christ, comme ces lépreux qui sont guéris, qui retrouvent la pureté de leur corps. Et nous ne pensons même pas revenir nous jeter aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ pour le remercier de ce qu'il a fait pour nous. Quel malheur, mes bien chers frères. Pensons à remercier. Trop souvent, nous approchons de notre Seigneur Jésus-Christ pour demander des choses. Mon Dieu, je veux ça, 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 ça et ça, et tout de suite. Eh bien, lorsque nous approchons notre Seigneur Jésus-Christ, au tabernacle de l'autel, par exemple, il faut commencer par adorer. Mon Dieu, je vous adore. Comme ce Samaritain qui se jette le visage, le front contre terre, aux pieds de Jésus pour lui rendre grâce. Front contre terre en signe d'adoration. Bon, évidemment, dans une chapelle, s'il y a du monde autour de vous, ne le faites pas comme cela, mais adorez. D'abord, premier acte, l'adoration. La fin de la trutique de la messe, c'est ça, la fin d'adoration. Ensuite, rendre grâce. Il se jette le visage contre terre, dit l'évangile d'aujourd'hui, aux pieds de Jésus, ça c'est l'adoration, lui rendons grâce. La reconnaissance, l'action de grâce, la fin eucharistique. Merci mon Dieu. Pensons à remercier. Certainement un des péchés qui fait le plus de mal à notre Seigneur Jésus-Christ, au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce péché par lequel nous manquons de reconnaissance. Malheur aux gens qui ne savent pas dire merci. Craignons à ce moment-là que le bon Dieu ne reprenne ce qu'il nous a donné, puisque nous ne sommes même pas capables de le remercier. Pensons à remercier notre Seigneur. Posons-nous cette question toute simple. J'ai reçu le baptême. Est-ce que je pense tous les matins à remercier le bon Dieu pour le baptême qu'il m'a donné? Quand vous réveillez le matin, au pied de votre lit, quand vous faites votre prière du matin, vous pensez à ces choses-là. Merci mon Dieu pour cette vie que vous m'avez donnée cette nuit. J'aurais pu mourir pendant cette nuit, avoir une crise cardiaque cette nuit et être mort à cette heure-là. Vous m'avez donné la vie physique. Vous me donnez cette vie physique pour ce début de journée. Je ne sais pas si toute la journée je vais avoir cette vie physique. Je peux être mort avant ce soir, mais merci mon Dieu pour m'avoir donné cette vie physique. Et maintenant, aidez-moi à utiliser cette vie physique pour garder la vie spirituelle. Merci mon Dieu de m'avoir donné le baptême. Je pourrais être comme ces millions de personnes qui n'entendront peut-être jamais parler de vous. Comme ces millions de personnes en France même, qui ne s'occupent pas du bon Dieu, qui font comme si le bon Dieu n'existait pas. Ils ont pourtant été créés par le bon Dieu, ils ne pensent même pas à venir l'adorer et le remercier pour ce qu'ils ont reçu de lui. Malheur, mes bien chers frères, malheur aux gens qui ne savent pas remercier. Pensons à remercier notre Seigneur, pas simplement du baptême, mais remercions aussi le bon Dieu pour la vie spirituelle qu'il nous donne, la possibilité qu'il nous donne d'avoir la confession, d'avoir la communion. Même si je n'ai la Sainte Communion, si je n'ai le pouvoir, la possibilité d'assister à la Sainte Messe qu'une fois de temps en temps, parce que les messes non unicum en France sont malheureusement rares, il n'y en a pas beaucoup, et beaucoup de nos fidèles ne peuvent pas venir tous les dimanches, parce que ça ferait trop de kilomètres, ça coûterait trop cher, dans bien des cas. Certains le font, certains ne peuvent pas, pour des différentes raisons. Donc pensons à remercier le bon Dieu. Encore une fois, tous ces dons sont des dons purement gratuits. Et me dire, mais pourquoi le bon Dieu ne donne-t-il pas les mêmes grâces, les mêmes dons aux autres personnes? Ça, c'est le mystère de Dieu. Tous les apôtres ont des grâces différentes. Tous les apôtres ont des âmes différentes. On le voit très bien chez eux. On doit être fidèle. Mais un va trahir. Judas va tout perdre. Alors pensons à remercier le bon Dieu. Mais malheur à ceux qui sont ingrats. L'ingratitude est quelque chose de terrible. Quelqu'un qui n'est pas capable de remercier le bon Dieu, quelqu'un qui va se couper du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, dernière partie, dernier passage important de ce texte de l'Évangile de Saint-Luc. Jésus lui dit, « Levez-vous, allez, votre foi vous a sauvé. » Levez-vous, ça veut dire, vous êtes maintenant un homme différent, vous étiez lépreux, maintenant vous ne l'êtes plus. Levez-vous, changez de vie. Rappelez-vous ce qu'il avait dit au paralytique. Prenez votre grabat et rentrez chez vous. Il vous dit, traînez sur un grabat, maintenant c'est vous qui portez le grabat, parce que vous êtes responsable de ce que vous faites maintenant que vous avez été guéri. Donc le bon Dieu, après l'absolution qu'il nous a donnée par le ministère du prêtre, il nous demande un changement de vie. Comme les rois mages qui, après avoir vu notre Seigneur Jésus-Christ, l'enfant Jésus, dans la crèche, repartent chez eux par un autre chemin, parce qu'ils sont différents. Ils sont lus comme païens, repartent comme catholiques. Et ils vont donner leur vie pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous aussi demandons cette grâce de changer de vie. Votre foi vous a sauvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire la foi que vous aviez en vous auparavant était informe. Il n'y avait pas la charité pour illuminer votre foi. Maintenant, vous avez reçu la charité par l'absolution sacerdotale. Le bon Dieu vous a pardonné d'une foi informe. Vous avez maintenant en vous, vous passez maintenant en vous à une foi formée par la charité. La foi sans la charité est une foi qui est une foi moribonde, comme une branche qui ne reçoit plus la sève par les canaux qui l'unissent au tronc de l'arbre. Si la branche ne reçoit plus la sève, eh bien, la branche va mourir, tout simplement. Alors, mes bien chers frères, pensons à remercier le bon Dieu pour la grâce de la foi catholique, la grâce d'avoir compris ce qui se passe aujourd'hui. Combien de personnes sont littéralement envoûtées par les hérésies de Bergoglio à Rome. Ils ne voient plus ça. Ils ne rêvent que d'une seule chose, c'est d'être reconnus par quelqu'un qui n'a plus la foi catholique. Ils ne comprennent pas. Et ils continuent à nous sortir du Saint-Père, du Saint-Père, du Saint-Père à longueur de journée, sans comprendre que le rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi, et que quelqu'un qui passe son temps à essayer de détruire la foi catholique ne peut pas être le Saint-Père, puisqu'il ne garde pas le dépôt de la foi. Concluons, mes bien chers frères, concluons ce sermon par la magnifique oraison du 13e dimanche après la Pentecôte, la collecte. Dieu Tout-Puissant, Éternel, augmentez en moi la foi, l'espérance et la charité. Et pour que je mérite d'obtenir ce que vous promettez, faites-moi aimer ce que vous commandez. Tout est beau là, dans cette oraison, tout est magnifique. Augmentez la foi pour croire, l'espérance pour prier, la charité pour obéir à la loi du bon Dieu, afin que je puisse obtenir ce que vous promettez, le ciel, mais pour cela, que je puisse aimer ce que vous me demandez, à savoir aimer à suivre la loi de notre Seigneur. Demandons, mes bien chers frères, la grâce de suivre celle qui nous a été donnée comme modèle, la très sainte Vierge Marie. S'il y en a une qui a eu de façon parfaite cette foi, cette espérance, cette charité, elle qui n'a jamais perdu ni la foi, ni l'espérance, ni la charité, contrairement à nous, elle qui a parfaitement obtenu tout ce que notre Seigneur lui avait promis, elle qui a parfaitement aimé tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui demandait de faire, même quand cela a consisté à se retrouver au pied de la croix et d'assister aux souffrances inouïes que son divin Fils a dû subir pour nous à cause de nos péchés, eh bien demandons à cette Vierge Mère, la Mère de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Reine du Ciel, demandons-lui d'augmenter en nous aussi cette foi, cette espérance, cette charité, pour qu'un jour nous puissions posséder le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel pour toute l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.